avez l'honneur de nous parler aujourd'hui de saint Augustin et particulièrement de du lien qu'il fait entre la culture chrétienne et la culture grecque et la culture latine dont il est l'héritier. Donc vous êtes professeur de philosophie au Centre Sœur, également chercheuse au CNRS. Vous êtes spécialiste d'Augustin depuis votre thèse qui parle d'Augustin et le désir de Dieu. Vous avez écrit un autre livre sur l'herméneutique augustinienne et puis aussi un livre sur Augustin dans la pensée de Paul Ricoeur. Vous avez également participé, je crois, ou travaillé à plusieurs éditions d'Augustin, notamment celle du De Doctrina Christiana et puis des commentaires sur les psaumes. Donc, je pense notamment au De Doctrina Christiana qui va peut-être...
Qui va être directement utile.
Être utile aujourd'hui, voilà. Donc, merci beaucoup.
Eh bien, très grand merci. Merci pour votre invitation. Écoutez, je suis heureuse d'avoir l'occasion de vous parler un petit peu d'Augustin et je vais essayer de le faire. J'ai bien compris que vous n'étiez pas d'abord des philosophes, enfin en tout cas pas seulement des philosophes, et que mon but était d'être accessible, surtout à cette heure un peu tardive, plutôt facile à suivre. Mais je peux en devenir plus technique si vous le souhaitez, c'est pas impossible. Alors pourquoi j'ai choisi la doctrine chrétienne comme base un petit peu pour réfléchir sur ce sujet? Eh bien, disons que d'ailleurs, comme vous me l'aviez suggéré, c'est vrai que cet ouvrage a constitué une base pour ensuite toute la manière de concevoir l'éducation, notamment au Moyen-Âge. Enfin, ça a été une sorte de tournant dans l'histoire de l'éducation. Et donc, il m'a semblé intéressant de choisir cet ouvrage. Et pour concrétiser un peu les choses, je voudrais essayer de poser le cadre, de voir un peu pourquoi et comment Augustin a rédigé cet ouvrage, avant d'en venir à la question plus précise qui nous intéresse. Donc je fais comme si vous ne saviez pas tous exactement qui est saint Augustin. Peut-être que je me trompe. Mais donc retenez simplement qu'Augustin s'est converti en 386 et imaginez... il est baptisé en 387 et imaginez qu'il devient prêtre en 391. Je ne sais pas si vous voyez vous êtes baptisé en Pâques 387 et vous êtes prêtre en 391. Et comment devient-il prêtre? Eh bien simplement, il passe à Hippone. Bien sûr, c'était un professeur de rhétorique très connu, Augustin, très très doué, très brillant. Et on se dit, l'évêque d'Hippone, qui est aujourd'hui à Naba en Algérie. L'évêque d'Hippone se dit, ah là j'ai l'aubaine, lui il parlait grec, il parlait mal latin, un prêtre qui sera capable de vraiment de prêcher à l'église, et donc de former tout le monde. Et donc c'est comme ça qu'on dit Augustin prêtre, et Augustin devient prêtre, et en fait lui il pleure, alors les autres croient que c'est parce qu'il n'est pas évêque tout de suite, mais bien sûr c'est pas ça, c'est parce qu'en fait il rêvait de devenir moine. Donc, ce n'était pas tout à fait la même chose. Alors, vous voyez, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, pour devenir prêtre, il n'y avait aucune formation. Rien du tout. Strictement rien. Et Augustin lui-même, quand il lui demande de devenir prêtre, il demande à son évêque, écoute, donne-moi 6 mois sabbatiques. Il faut que je lise l'écriture. Je ne peux pas commencer sans avoir lu l'écriture. Bon, enfin, formation en 6 mois, vous voyez que c'est quand même une formation plus que raccourcie. Bon, à l'époque aussi, il faut savoir qu'en fait, c'était les évêques et non les prêtres qui prêchaient. Mais les évêques n'étaient pas tellement plus formés. Bon, mais donc c'était pas les prêtres qui prêchaient. Et l'évêque de Carthage, qui est Aurelius, qui était donc le primat en Afrique du Nord, et donc il réalisait aussi qu'à l'époque, l'Afrique du Nord, c'est une église excessivement vivante. Évidemment, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Enfin, c'est tout à fait différent aujourd'hui concernant le nombre d'évêques et la chrétienté là-bas. Donc, l'évêque Aurelius dit à Augustin, eh bien, écoute, il faut... on voudrait que les prêtres prêchent, qu'ils ne soient pas seuls à prêcher, et il demande à Augustin de faire quelque chose pour la formation des prêtres. Et c'est pour répondre à cette demande d'Aurelius, évêque de Carthage, qu'Augustin va écrire donc cet ouvrage, La doctrine chrétienne, De Doctrina Christiana. Et donc, pour vous donner, vous voyez, il l'écrit vers 396, sachant qu'il est devenu évêque lui-même en 395 ou 396. Vous voyez, là, c'est quand même assez rapide. Hein. Bon. Donc, c'est un ouvrage pour former les futurs prêtres. Et en fait, ça se présente comment ? Ça va se présenter avec trois livres qui sont un traité d'herméneutique, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner des règles pour interpréter l'écriture. Parce que l'écriture, ce n'est pas si facile que cela à comprendre. Je pense d'ailleurs que ce qu'on a entendu tout à l'heure sur l'Épître aux Galates montre que ce n'était pas si facile que cela de comprendre l'écriture. Bon, l'écriture mérite. Si on ne veut pas l'interpréter de travers, il faut connaître les règles de l'interprétation. Et puis le quatrième livre est destiné à la formation des prédicateurs. Donc il s'agit de savoir comment exprimer ce qu'on a compris. Et alors, c'est dans le courant de cet ouvrage que Augustin va se poser la question, qui est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est en gros comment articuler la culture classique et une formation chrétienne. Alors, comment arrive-t-il à se poser la question ? Bon, d'abord, pour réfléchir sur la formation des prêtres, Augustin nécessairement réfléchit sur sa propre formation. Et lui, il avait une formation classique. Il avait vraiment une formation classique assez poussée quand même, mais comme professeur de rhétorique. Et il voyait bien que ça lui était utile néanmoins. Donc il n'allait pas penser qu'il suffisait de lire l'écriture pour pouvoir être capable de comprendre l'écriture et de prêcher sur l'écriture. Donc il va nécessairement se dire, mais quelles sont donc les disciplines que j'ai travaillées qui sont utiles pour comprendre l'écriture ? Et c'est comme ça qu'il commence à évoquer, après tout, si on veut comprendre, par exemple, les psaumes, il est question de musique. Bon, donc, d'avoir un minimum de notions en musique, c'est indispensable si on veut comprendre la symbolique de la musique. De même, il y a des nombres. Alors, il faut connaître les nombres, et puis il y a des raisonnements, et puis etc. etc. Oui, mais... En fait, commençant cela, donc c'est en fait au livre 2 du De Doctrina Christiana, tout d'un coup, il réalise que la question n'est pas simplement de savoir est-ce que je peux utiliser ceci ou cela ? Parce que utiliser ceci ou cela, disons, c'est faire comme si on pouvait détacher un élément de tout son contexte. Et que la question est beaucoup plus radicale. La question qu'il traite, en fait, c'est dans quelle mesure la culture classique est-elle compatible avec la foi chrétienne ? Vous voyez, est-ce que cette culture qui était la sienne peut être chemin pour comprendre la foi chrétienne ou est-ce qu'elle peut constituer un obstacle ? Vous voyez donc que la question devient beaucoup plus fondamentale. C'est vraiment s'interroger sur le rapport entre foi et culture. Quel jugement porter sur la culture quand on est de l'intérieur de la foi chrétienne ? Son usage est-il donc ou non compatible avec la foi chrétienne ? Je suppose que vous voyez aussi que cette question reste d'actualité et que bien évidemment nous ne pouvons pas nous contenter de reprendre simplement ce qu'on dit les anciens avant nous, parce que la culture ne cesse de se transformer et que les nouvelles découvertes dans tous les domaines, ou les transformations des mœurs et autres, tout cela constitue, un certain défi. Enfin, il s'agit de réfléchir à ce qui est compatible, ce qui est chemin ou ce qui est obstacle, au contraire, pour la foi. Alors, je vous propose simplement de réfléchir dans un premier temps sur la question posée et à partir de là sur le principe de discernement qu'Augustin va mettre en œuvre et sur son présupposé, donc ça sera une première partie. Et puis dans une deuxième partie, je verrai un peu plus concrètement comment Augustin applique ses critères aux différentes disciplines et aux différents aspects de la culture. Bon, d'abord donc, comment la question posée ? Bon, la question posée, il faut réaliser que c'est une question centrale pour le christianisme, parce que le christianisme, c'est une religion de l'incarnation. Et donc Jésus s'est fait homme, il s'est fait juif, donc il est entré dans une culture. Bon, et le christianisme avait également besoin d'entrer dans la culture du temps. Donc c'est toute la question qu'on peut appeler inculturation qui est en fait posée. Dans quelle mesure la foi peut-elle pénétrer la culture, la transformer ? Et en tout cas, donc, il faut qu'elle soit... elle doit nécessairement interagir avec la culture, puisque nous-mêmes, nous sommes des êtres de culture. Alors, cette question, de façon un peu générale, un peu rapide peut-être, mais elle avait déjà été posée avant Augustin, en tout cas entrevue avant Augustin. Je ne vais donner que deux exemples volontairement un peu différents. Justin, pas si vous voyez qui est Justin, philosophe et martyr, bon, mort vers 150 après Jésus-Christ, qui a écrit deux apologies, ou, enfin une ou deux, enfin ça c'est un autre problème, et un dialogue avec Tryphon. Mais Justin, donc, dans l'apologie ou les apologies, dit en toutes lettres, parce que ses apologies sont adressées à des païens, tout ce qu'ils ont enseigné de bien nous appartient à nous, chrétiens. Car après Dieu, nous adorons et nous aimons le Verbe né du Dieu éternel et ineffable, puisqu'il s'est fait homme pour nous, afin de nous guérir de nos maux en y prenant part. Les écrivains ont pu voir indistinctement la vérité grâce à la semence du Verbe qui a été déposée en eux. Mais autre chose est de posséder une semence et une ressemblance proportionnée à ses facultés, autre chose, l'objet même dont la participation et l'imitation procèdent de la grâce qui vient de lui. Donc c'est la deuxième apologie au paragraphe 13. C'était peut-être un peu difficile à suivre de cette façon, mais vous avez entendu quand même cette expression « semence du Verbe ». Donc il y a l'idée que le Verbe, bien sûr, peut être connu de façon beaucoup plus pleine quand on est chrétien, mais en même temps, il y a des semences du Verbe en toute culture, enfin dans la culture. Donc à partir de là, pour Justin, eh bien, notamment certains philosophes ont pu déjà découvrir des vérités, et vous avez entendu aussi ce qu'il dit, tout ce qu'ils ont enseigné de bien nous appartient à nous chrétiens. La vérité pour Justin, c'est le Christ. Donc, si des philosophes, même non chrétiens, disent la vérité, aucun problème. C'est quand même une vérité qui vient de Dieu, qui vient du Verbe de Dieu. Donc, vous voyez, un jugement, bon, ce jugement positif, sur, par exemple sur la philosophie, n'exclut pas chez Justin des critiques notamment très vigoureuses de la mythologie. Donc, il fait un discernement déjà. Bon, mais ce n'est pas l'objet principal de ces apologies, puisque ces apologies sont des défenses de la foi chrétienne auprès des empereurs. Alors, je prends un autre auteur volontairement assez différent, qui est Tertullien. Tertullien, donc auteur africain à la charnière du 2e et du 3e siècle. Et Tertullien, bon, c'est un homme haut en couleur, mais qui a des formules bien frappées, et donc lui, apparemment, mais c'est quand même un peu apparemment, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, sa thèse, pour lui, ben, en fait, il n'y aurait apparemment rien de compatible entre Athènes et Jérusalem. Si je relis la phrase caractéristique, quoi de commun entre Athènes et Jérusalem, entre l'Académie et l'Église ? Entre les hérétiques et les chrétiens. Bon, donc, vous voyez, on glisse de Athènes à l'Académie et aux hérétiques. Sous-entendu, les philosophes sont principes de toutes les hérésies. Et donc, bien évidemment, avec un tel jugement, on pourrait penser que Tertullien ne va rien faire de la culture de son temps. C'est tout à fait faux, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, Tertullien est un... À utiliser la culture, mais bon, c'est un polémiste né, mais il a réfléchi aussi, notamment dans un ouvrage qui s'appelle De la couronne, couronne du soldat, il a réfléchi, il a beaucoup thématisé le concept d'usage, qu'est-ce qu'on peut utiliser et du bon usage de la culture. Donc voilà, deux auteurs que je vous ai, que j'ai brossé, quand j'ai brossé le portrait de façon un peu sommaire, mais pour vous dire qu'on avait déjà commencé à réfléchir à cette question, et éventuellement de façon contrastée, soit de façon plutôt accueillante, soit de façon plutôt polémique. Alors, Augustin, quand il aborde cette question, dans le livre 2 du De Doctrina Christiana, l'aborde d'une certaine façon, de façon plus systématique. Puisque ce qu'il est en train de chercher à construire, c'est un programme de formation chrétienne. Vous voyez, ce n'est pas simplement sur un point donné, mais vraiment un programme de formation chrétienne. Et donc, à partir de là, il va s'agir de mettre en œuvre un discernement. Alors, quels critères choisir pour mettre en œuvre ce discernement par rapport à la culture ? Alors, ici, Augustin cite, dans le livre 2 du De Doctrina Christiana, au moment où il commence cette grande digression sur le rapport entre culture et foi chrétienne, il cite l'Épître aux Romains, Romains 1, verset 19 et suivant. Moi, je lis à partir du verset 19, à ce moment-là, lui, il cite plutôt à partir du verset 21, mais c'est pour vous donner le contexte. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, c'est-à-dire pour les païens. Hein. Romains 1, il s'agit des païens. Paul s'adresse, enfin, parle des païens. Donc, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se laissent voir à l'intelligence depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, vous voyez, les perfections invisibles de Dieu, finalement, se laissent découvrir à travers la création. Donc, la création est signe de Dieu. L'ouvrage dit quelque chose de son auteur. Mais Paul continue. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Autrement dit, Paul reconnaît aux païens le fait qu'ils ont connu Dieu, mais ils l'ont connu sans, pourrait-on dire, le reconnaître, sans lui rendre grâce, sans lui donner un culte digne de Dieu. Et tant et si bien qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, et ensuite dans des tas de mœurs que Paul dénonce. Donc vous voyez, Paul lui-même ici, à la fois dit les païens ont pu connaître Dieu, et en même temps, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Alors, ce verset va être en quelque sorte la clé pour porter un jugement sur la culture. C'est-à-dire que il va s'agir de découvrir dans la culture ce qui peut être signe de Dieu ou ce qui, au contraire, va nous conduire vers l'idolâtrie. Alors, j'ai employé ici un mot important qui est le mot « signe ». Parce que, j'ajoute une chose que j'ai oublié de dire, vous voyez bien que Paul, lui, parlait du rapport à la nature. Et donc, Augustin transpose ce que Paul dit du rapport à la nature comme signe de Dieu, il transpose ça à la culture. La culture qui peut ou non conduire à Dieu. Et ce qui me semble extrêmement intéressant et assez neuf, c'est que il va donc développer toute une vision de la culture comme, en fait, un système de signes, je vais quand même un peu trop loin, mais quand même comme un ensemble de signes. Toute la culture est un ensemble de signes. Et vous allez voir ensuite dans les exemples que je donne, qu'Augustin donne, il va découvrir que aussi bien, fait partie de la culture, l'alphabet, bon, bien sûr, les lettres, donc là, ça va de soi, ce sont des signes, mais l'art, ce sont des signes. L'astronomie, eh bien, il y a des signes, des chiffres, et donc il va découvrir partout des signes. Vous voyez, mais des signes qui, dans certains cas, peuvent nous conduire à Dieu et dans d'autres, nous en détourner. Donc voilà le, je dirais, le principe de discernement mis en œuvre et son présupposé, comprendre la culture comme un ensemble de signes. Bon, je fais ici un parallèle qui est peut-être un peu étonnant, mais c'est juste pour vous montrer le caractère moderne, malgré tout, de ce que dit Augustin. Enfin, le caractère, alors c'est peut-être un peu anachronique, mais vous savez sans doute que Lévi-Strauss, dans sa préface au livre de Mauss, Sociologie et Anthropologie, écrit « Toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques, au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l'art, la science, la religion. » Eh bien, en fait, concrètement, Lévi-Strauss avait appliqué des modèles linguistiques à l'anthropologie, etc. Et donc, elle avait élargi la vision, même si vous avez lu le cru et le cuit, ben, la cuisine aussi peut être vue comme un ensemble de, un système de signes. Vous voyez ? Eh bien, je dirais, Augustin, en son temps, fait quelque chose d'un peu similaire. Bien sûr, il ne pense pas sous forme de système. Et alors, ce qui est certain aussi, c'est que l'interprétation qu'il donne, la signification qu'il cherche est évidemment tout à fait différente de celle que cherche Lévi-Strauss, hein, on est bien d'accord. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Je pourrai répondre si vous souhaitez après. Donc, voilà les principes de base. Alors, on peut voir maintenant, si vous voulez, comment Augustin va appliquer ce discernement à la culture. Et déjà, il faut comprendre, il va opérer une classification qui est très originale, pas du tout habituelle, mais qui est évidemment commandée par ce qu'il cherche à faire. En fait, il distingue dans la culture ce qui est institué par les hommes et ce qui n'est pas institué par eux. Alors, ça peut vous sembler un peu étrange. Ce qui est institué par les hommes, bien sûr, c'est assez clair. Enfin, on voit bien, même, il parle aussi bien de la monnaie, des vêtements, de l'alphabet, etc. Ce qui n'est pas institué par les hommes, en fait, pourquoi ce critère négatif ? C'est qu'en fait, il cherche ce qui a été, selon lui, institué par Dieu. Et donc, concrètement, si vous voulez, par exemple, pour lui, les règles de la logique, la dialectique, les mathématiques, en fait, c'est institué par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a institué ça, l'homme n'a fait que découvrir, en quelque sorte, la structure des éléments, si vous voulez. C'est en tout cas comme ça que lui le pense. Hein. Bien sûr, on pourrait discuter philosophiquement de la chose, mais... Donc, c'est comme ça qu'il le voit. Donc, il y a ce qui est institué par les hommes, et donc, vous comprenez bien que ce qui est institué par les hommes... comme ça peut être aussi bien l'astrologie, la magie, c'est nécessairement ambivalent. Ce qui est institué par Dieu, par définition, ça peut être signe de Dieu. Donc vous voyez, le principe déjà de la classification, c'est de mettre d'un côté ce qui est ambivalent et de l'autre ce qui ne l'est pas. Enfin, en tout cas, pas immédiatement. Et ensuite, quand il envisage, il y a un deuxième critère qui va... me mettre en œuvre, un deuxième principe de classification. Dans ce qui est institué par les hommes, il va distinguer ce qui est superstitieux et ce qui ne l'est pas. Il faut bien comprendre aussi que vous vivez dans l'Antiquité tardive, dans un monde quand même très, très pénétré par la superstition. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est complètement disparu. Mais enfin, en tout cas, c'est très présent. Parce que pour savoir quand on va faire des semailles, quand on va faire n'importe quel acte de la vie, on va consulter les astres, on va porter des amulettes, on va, etc. Bon, donc, même Augustin, dans ses sermons, il prend à partie ses auditeurs parce qu'il porte des amulettes en pensant que ça va les guérir, tout en voulant avoir recours au Christ... on dit que le Christ est médecin, alors qu'est-ce qu'ils choisissent ? Mais vous voyez, donc il y a, en tout cas, la présence d'une... la dimension religieuse de toute la vie est quand même très présente, et une dimension superstitieuse. Donc vous voyez, deuxième critère, ce qui est superstitieux, ce qui ne l'est pas. Et ensuite, dans ce qui n'est pas superstitieux, Il y a un troisième critère à mettre en œuvre. Ben, il y a ce qui est inutile, ce qui est vain, ce qui est superflu, d'une part, et il y a ce qui est utile à la vie humaine. Alors, maintenant que j'ai posé les distinctions, j'entre dans le contenu. Augustin commence par évoquer ce qui est institué par les hommes et qui est superstitieux. Alors là, qu'est-ce qu'il va évoquer ? Eh bien, il va évoquer d'abord tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, est idolâtrique. Donc d'abord la magie. Et la magie, c'est quand même fort important à cette époque-là. Il va parler des aruspices, des augures, si vous avez un peu de culture romaine, ça vous dit quelque chose. Mais il va parler aussi de toutes les incantations thérapeutiques, mais de type magique. On va porter telle chose en pensant que ça va vous guérir. Tout ce qui est superstitieux, tel pendant au bout de chaque oreille, des anneaux en os d'autruche au doigt, etc. Enfin, des tas de... Ce sont des choses extrêmement concrètes qu'il évoque, mais qui sont des choses de son époque. Et il évoque surtout, et de façon très longue, l'astrologie. L'astrologie qui avait un impact considérable à l'époque et qui a eu un impact considérable sur Augustin lui-même. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, Augustin a été quand même presque 9 ans dans le manichéisme, et très adepte des pratiques astrologiques, au point même que certains de ses amis le consultaient à ce sujet. Il était devenu assez compétent dans le domaine. Et donc l'astrologie réglait en quelque sorte la vie humaine, avec du coup, comme toile de fond, l'idée du destin, puisque tout était écrit dans les astres. Alors Augustin va discuter de façon très forte l'astrologie, et surtout ce qu'il va mettre en évidence, c'est que l'astrologie, en réalité, elle repose, dit-il, sur des conventions avec les démons. En fait, c'est tout à fait conventionnel. On attribue à telle constellation telle signification. Mais pour lui, cette signification ne tient pas à la position des astres. C'est en fait quelque chose qu'on a institué, mais qu'on a institué de façon telle qu'en réalité, ça nous rend en quelque sorte dépendants des démons. Ça nous relie à des forces... Oui, des forces spirituelles négatives, disons. En tout cas, concrètement, c'était lié à des pratiques idolâtriques. Donc, critique très forte de l'astrologie. Et bon, donc j'ai donné quelques exemples, vous voyez, de ces disciplines, enfin, ou de ces pratiques qu'il faut récuser comme étant strictement incompatibles avec la foi. Maintenant, si on continue dans ce qui a été institué par les hommes, on peut regarder, en fait, on va du plus négatif au plus positif, hein. Je suis le texte d'Augustin, eh bien, on peut regarder les institutions qui sont superflues. Alors, dans les institutions superflues, eh bien, vous n'aurez peut-être pas le même avis que lui, mais il faut voir aussi que ça a bien changé, il y a le théâtre. Il faut bien comprendre aussi ce que c'était que le théâtre à l'époque. Ce n'est pas tout à fait du théâtre comme pour nous aujourd'hui. C'était un lieu, malgré tout, qui incitait peut-être à la débauche, et qui était aussi, en tout cas, dans l'expérience d'Augustin. Mais, donc, il y a le théâtre, mais il y a aussi, il n'a pas une vision très positive de l'art, c'est-à-dire les tableaux, les statues, les fables, les légendes. Bon, Augustin aime beaucoup la beauté, mais la beauté naturelle, beaucoup plus que la beauté artistique. Donc, pour lui, toutes ces institutions, il y a aussi tout ce qui relève du luxe, et qui n'est pas strictement utile. Et pour lui, vous voyez, tout cela, ce sont des signes, et des signes conventionnels. Bon, je donne l'exemple qu'il donne. Il dit même les histrions, bon, c'est à l'époque, enfin, disons, les mimes, les acteurs. Il dit même, pour comprendre un mime, eh bien, finalement, c'est une question de convention. Si on ne connaît pas la convention, on ne comprendra pas la signification du mime. Donc tout ça pour vous dire que ce sont des signes conventionnels et pas des signes naturels. C'est une distinction importante qu'Augustin introduit ici. Alors, après, les signes, disons, qui étaient, enfin, la partie de la culture, les institutions qui, sans être superstitieuses, sont vaines et inutiles, Augustin envisage quand même toutes les institutions humaines qui sont avantageuses et nécessaires. Alors, première institution qu'il évoque, le vêtement. Le vêtement et la parure du corps pour distinguer les sexes et les dignités. Bon, mais aussi, il dit plus largement, les innombrables catégories de signes sans lesquels la société ne peut pas du tout, ou moins commandement, s'administrer. Alors, il donne comme exemple tout ce qui, en matière de poids, de mesure, de frappe ou de valeur de monnaie, est propre à chaque cité ou à chaque peuple. Enfin, toutes les autres institutions de cet ordre qui, si elles n'étaient pas l'œuvre des hommes, ne varieraient pas avec les divers peuples et chez chacun en particulier ne changeraient pas au gré de leur chef. Donc, vous voyez, là encore, on a le critère pour savoir que c'est conventionnel, c'est que ça varie suivant les cultures, enfin, suivant les peuples. Mais Augustin en reconnaît parfaitement la valeur et il continue en évoquant donc les lettres, les notes, abrégées pour c'était les sténographes de l'époque. Hein. Tout cela pour lui est évidemment très important, tout à fait utile. Donc maintenant là, on commence à tenir des éléments utiles dans la culture. Alors ensuite, Augustin arrive à ce qui n'a pas été institué par les hommes et qui donc est plus naturellement signe de Dieu. Et alors, dans cette seconde grande partie, il va évoquer d'abord, de façon qui peut nous paraître un peu surprenante, et qui est d'ailleurs assez, c'est assez neuf pour l'époque de lui donner une telle importance, il va évoquer l'histoire. Et vous, ça doit vous étonner un peu qu'on dise que l'histoire n'est pas instituée par les hommes. Mais en fait, quelle est l'idée d'Augustin ? C'est que c'est Dieu qui est l'ordonnateur des temps. Et que, bon, donc en fait, à l'arrière-plan, il y a toute l'idée de l'histoire du salut. C'est Dieu qui ordonne le temps. Bon, et donc, le déroulement des événements ne peut pas être laissé au hasard. Il est conduit par la Providence. Et donc, pour lui, il dit d'une certaine façon, c'est institué par Dieu. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas leur mot à dire là-dedans. Mais en tout cas, il voit la conduite de Dieu dans l'histoire et par le fait même, donc il met dans ce qui n'est pas institué par les hommes. Je dis que c'est assez neuf, enfin c'est assez important parce que on pourrait comparer ce traité d'Augustin à un premier traité plus ancien, le traité de l'ordre, où il avait en fait privilégié toutes les disciplines libérales. Et donc le cadre tout à fait classique de formation dans l'Antiquité. Mais donner une grande importance à l'histoire, c'est à mettre en lien avec la religion de l'incarnation, enfin le fait que l'incarnation est centrale dans le christianisme. Alors, après l'histoire, il évoque ce qu'il appelle l'histoire naturelle. L'histoire naturelle, autrement dit, les connaissances des propriétés des plantes, des animaux. Et il évoque aussi ce que je vais appeler l'astronomie. Mais sachez bien qu'à l'époque, il n'y a pas deux mots différents pour distinguer l'astrologie et l'astronomie. Autrement dit, il est capable, il opère une distinction quand même assez fine entre la connaissance des astres, qui sont effectivement des signes pour connaître les saisons et à partir de là pour pouvoir planter à la bonne époque, etc., etc., et même se diriger sur l'océan. Enfin, il donne ces exemples-là. Et puis, l'astrologie qui plaque, je dirais, sur ces signes naturels, une convention qui en fait est plus ou moins idolâtrique. Et donc vous voyez, il opère à l'intérieur donc, de cette connaissance des astres une distinction entre ce qui est superstitieux et ce qui ne l'est pas. Tout comme il opère à propos de l'histoire naturelle, bon ben, connaître les propriétés des herbes, c'est très bien. Maintenant, en faire enfin, on peut en faire faire à partir de là de la magie, ben là, ça va plus. Et puis, ensuite, il évoque ce qui dépend plus directement de la raison. Et donc, il va évoquer la dialectique, donc l'art du raisonnement, et l'éloquence. Et il souligne l'importance de ces disciplines. Il donne même comme exemple pour l'art du raisonnement, le raisonnement que Paul fait dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15. « Si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. » Enfin, il essaie de montrer comment c'est tout à fait cohérent logiquement, quoi. Il raisonne par l'absurde, si vous voulez. Et que donc, c'est indispensable de connaître ces modes de raisonnement si on veut comprendre la Bible. N'oubliez pas quand même que le but, c'est de comprendre la Bible, hein, même si on est en train d'élargir beaucoup la perspective. L'éloquence est également utile, donc connaître les différents styles, ne serait-ce aussi que pour comprendre précisément ce qu'on lit dans l'Écriture. De même, la science du nombre est utile. Bon, et si vous voulez, dans toutes ces disciplines qui correspondent aux arts libéraux de l'Antiquité, il y voit un chemin vers Dieu. Alors, on voit ça peut-être plus nettement dans le traité de l'ordre, du De Ordine, mais d'une certaine façon, c'est la tradition inaugurée, enfin, que vous avez aussi chez Platon dans la République. C'est l'idée que, à travers, qu'il s'agisse des mathématiques, de la musique, de l'astronomie, etc., on peut passer du sensible à l'intelligible, et que donc ça nous conduit vers Dieu, parce que ça nous permet d'accéder à l'intelligible. Néanmoins, même si tout cela est très positif, puisque ça nous permet de découvrir des lois immuables qui régissent la création, et c'est en ce sens-là que ça nous fait découvrir des signes de Dieu dans la nature, Augustin ajoute quand même une restriction. C'est-à-dire qu'il est tout à fait conscient que même si toutes ces sciences sont bonnes, on peut en faire bon ou mauvais usage. Et donc il y a maintenant une autre catégorie qui entre en ligne de compte, c'est la catégorie d'usage. Où on peut faire bon ou mauvais usage, autrement dit, la question c'est de savoir si toutes ces sciences, je les acquiers en vue de mon intérêt propre, de ma gloire, ou si je les acquiers pour les mettre au service des hommes, pour aller vers Dieu. Autrement dit, l'orientation que je vais donner à la manière dont je vais user de toutes ces sciences est évidemment déterminante pour savoir, parler de quelque chose de positif ou de négatif. Et Augustin conclut, il faut que je fasse attention à l'heure, Augustin, conclut par une sorte d'image, sans doute qui sera peut-être un peu étonnante pour vous si vous ne la connaissez pas, peut-être parlante en même temps, mais enfin en tout cas très répandue dans la patristique, l'image des dépouilles des Égyptiens. Vous connaissez peut-être que, enfin vous voyez peut-être dans l'Exode, au chapitre 12, au moment où les Hébreux quittent l'Égypte, ils vont emprunter aux Égyptiens des bijoux pour adorer leur dieu dans le désert, disent-ils. Mais en fait, d'emprunt, gros, c'était un vol, puisque bien évidemment, puisqu'ils partaient de façon définitive, ils n'allaient pas leur rendre. Donc vous imaginez bien que tous les pères de l'Église ont été un peu gênés par cet élément, parce que c'était quand même pas très moral. Donc on a fait une interprétation allégorique. Et Augustin, il fait cette interprétation allégorique, mais il n'est pas le premier. Origène déjà l'a fait. Et donc, interprétation allégorique, que sont ce qu'on vole aux Égyptiens ? Eh bien, en fait, ça va être précisément le symbole de la culture. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aux Égyptiens, entre guillemets, donc aux païens, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre aux païens, eh bien, c'est toutes les vérités qu'ils ont pu trouver. Les vérités qu'ils ont pu trouver, eh bien, on retrouve exactement, Augustin retrouve exactement la formule qu'avait Justin, c'est-à-dire, la vérité, où qu'elle soit, appartient à Dieu. Donc, si des païens l'ont trouvée, ben, on peut très bien la reprendre. Puisque la vérité, où qu'elle soit, nous appartient à nous, chrétiens, puisque la vérité a sa source en Dieu. Donc, il est tout à fait légitime d'emprunter à la culture païenne les vérités qu'elle contient, parce que ces vérités ont leur source en Dieu. Bon, en revanche, il est aussi légitime, de même que les Hébreux ont pu emprunter des vêtements de fête, des vêtements tout court aux Égyptiens, eh bien, il est légitime, dit Augustin, d'adopter un certain nombre de coutumes et de mœurs des sociétés dans lesquelles on vit, pourvu, dit-il, de les convertir en usage chrétien. C'est ça sa formule. Il faut les convertir en usage chrétien. Mais néanmoins, on va les adopter, quand elles sont bonnes et utiles. En revanche, ce qu'on va éliminer absolument, c'est tout ce qui est fiction mensongère et idolatrique. On peut prendre l'or, mais on ne va pas faire avec de l'or des idoles. Vous voyez, ça revient à dire ça. Et donc, il applique cela de façon toute particulière à la philosophie. Et on voit ça d'ailleurs dans le livre 7 des Confessions. Mais il applique ça de façon toute particulière à la philosophie, et on comprend ça très bien à partir de l'itinéraire d'Augustin lui-même. Parce que, en fait, Plotin et Porphyre, donc les néoplatoniciens, ont joué un rôle, mais vraiment très positif, pour libérer Augustin du manichéisme. Parce qu'ils lui ont fait découvrir qu'il n'y avait pas seulement des réalités matérielles, et ils lui ont fait dépasser le dualisme métaphysique des manichéens. Donc, je dirais, pour Augustin, enfin Augustin même a fait une véritable expérience de Dieu après avoir lu Plotin et Porphyre, ça c'est incontestable, si vous lisez le livre 7 des Confessions, l'expérience dite de 1000 ans. Donc, eh bien, Augustin reconnaît dans ses écrits, eh bien, des vérités divines, mais que les païens ont tout à fait été capables de découvrir et de reconnaître. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il va pour autant admettre tout ce que disent les philosophes. Comme là encore, il faut faire un tri, il faut faire un discernement. Et une fois qu'on est sorti riche d'Égypte, il continue son image, eh bien, il explique qu'il faut encore faire la Pâque. Les Hébreux ont passé la mer Rouge. Eh bien, faire la Pâque, quand on est cultivé, quand on a toutes ces sciences qu'on a pu acquérir par sa formation, y compris païenne, eh bien, il faut faire la Pâque. Et faire la Pâque, c'est quoi pour Augustin? Eh bien, en fait, on pourrait dire de façon simple, c'est passer... Bon, en latin, c'est de la cupiditas à la caritas, mais en français, ça veut dire d'un désir intéressé, centré sur soi, vous voyez, où on rapporte tout à soi, à un amour, à l'amour de Dieu et du prochain, et donc un amour désintéressé. Autrement dit, donc il revient à la question de l'usage. À quoi s'est ordonné les études que je fais, les sciences que j'acquiers? À quoi est-ce ordonné? Quelle en est la finalité pour moi? Est-ce que c'est pour les mettre au service des autres? Est-ce que c'est les utiliser pour découvrir Dieu? Ou est-ce que c'est finalement pour chercher ma propre gloire, faire carrière? Augustin lui-même a été tenté par ça, en son temps. Et finalement, ou chercher de l'argent, parce que c'est aussi une possibilité. Donc il ne suffit pas de savoir reconnaître les vérités là où elles sont dans la culture. Mais il faut encore les orienter, en faire le bon usage par le choix, les choix éthiques qui sont les nôtres. Je conclue, vous pourrez ensuite me poser des questions si vous le souhaitez. Bon, Augustin, ça vous paraît peut-être loin, je veux dire, c'est le 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Mais vous voyez bien qu'il me semble que les questions qu'il pose sont des questions qui peuvent encore valoir aujourd'hui. Si j'essaye de transposer un peu, c'est, on peut se demander quel rapport entre la foi et puis votre formation scientifique, littéraire, musicale, etc. Et on voit bien qu'il y a des enjeux à la fois théoriques et pratiques. Théoriques, ben, je suppose que déjà vous percevez que il peut y avoir des discernements opérés à l'intérieur de telle ou telle discipline. Enfin, bon, prenons mon domaine, c'est bien clair qu'on ne peut pas lire tous les philosophes de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à tous les philosophes, mais il faut bien... Tout ne peut pas être vrai de la même façon, ce n'est pas possible. Il y a un discernement à opérer. Alors, je dirais, alors là je parle d'expérience, mais quand on a une responsabilité d'enseignement, ben, on se dit qu'on ne peut pas... Je dirais, mettre tout sur le même plan et disons, ben, il y a ce qui peut conduire à Dieu et ce qui peut faire obstacle à Dieu. Ça, c'est bien clair. Enfin, et comme professeur de philosophie, moi, j'ai le sentiment qu'on peut vraiment être soit un chemin, soit un obstacle. Et que ça peut être même un obstacle décisif et déterminant. Donc, ça prouve bien qu'il y a des discernements à opérer si on veut... précisément que la culture soit compatible avec notre foi chrétienne et puisse en amener d'autres à la foi. Et puis évidemment, d'un point de vue pratique, et je pense que ce sont des questions que vous pouvez vous poser aussi, mais finalement, quelle est la finalité que vous donnez aussi à toute cette formation poussée qui est la vôtre ? Ben, c'est certain qu'on peut, faire carrière, oui, ça peut être très bien, mais on peut faire carrière aussi en vue d'un service et d'un service de la vérité, d'un service des autres et d'une quête de Dieu. Donc il y a manière et manière, disons, d'orienter toutes les études que l'on peut faire. Voilà, j'espère que ça correspondait à peu près à ce que vous souhaitiez. Et donc je suis à votre disposition pour des questions. Oui.
Oui. Dans les choix d'enseignement.
Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est un discernement sur le contenu, dans le sens où on peut choisir d'enseigner certaines choses plutôt que d'autres, ou sur la manière de procéder, c'est-à-dire il faut faire preuve de rigueur intellectuelle, enseigner les choses telles qu'elles sont, quand on n'est pas sûr, ne pas. Alors qu'est-ce qui vous semble plus important?
Bah, c'est évident que le discernement en matière de. Enfin, discerner sur. La rigueur des méthodes, etc., pour moi, ça va de soi. Ça, c'est une évidence. Et je dirais, une honnêteté intellectuelle, pour moi, c'est absolument fondamental. Et je dirais, alors là, c'est incontestable. Effectivement, on ne va pas privilégier le brillant, ce qui fait illusion, sur la solidité d'un raisonnement. Donc, pour moi, c'est absolument incontestable. Mais je dirais, dans mon expérience d'enseignante... Je me suis quand même posé des questions aussi sur le contenu de ce que j'enseignais. Et j'ai toujours estimé qu'il était fondamental d'enseigner aussi bien Nietzsche que Platon, Descartes ou Kant, tout en ayant conscience qu'un auteur comme Nietzsche peut être un auteur extrêmement dangereux dans certains cas. Enfin, vous voyez, la critique du christianisme est quand même très radicale. Vous voyez ? Et que donc, disons qu'en tout cas, je ne pouvais pas, me semble-t-il, enseigner Nietzsche sans prendre le temps d'un véritable recul critique avec mes élèves, avec mes étudiants.
Quand vous étudiez un autre auteur, le recul critique...
Pour tous les auteurs, il est utile. Oui. Mais disons, il me semblait encore impératif. Oui. Disons que si je ne le faisais pas, il me semblait que je n'étais pas cohérente avec ma propre foi et avec sans dire que c'était au nom de la foi que je le faisais, mais en réflexion sur les présupposés d'un auteur et ça, est-ce que c'est vrai, quoi, tout simplement. Bon, alors c'est une question difficile, mais voilà. Mais disons que en plus, je trouve, mais comment dire. On peut quand même avoir un impact considérable. Plus on a des élèves jeunes, plus on peut avoir d'impact. Et malgré tout, on ne lit pas impunément telle ou telle chose à n'importe quel âge. Surtout si on n'est pas accompagné dans cette lecture. Enfin, je ne sais pas, mais donc, peut-être que j'ai le sens un peu fort de la responsabilité morale qu'on a comme enseignant aussi. Et, pour l'honnêteté intellectuelle, pour ça, c'est incontestable. Pour moi, ça, c'était le béaba. Ça a toujours été le béaba.
Non, c'est intéressant, en fait, ce qui m'étonne, c'est que vous pensez qu'il y a aussi une idée que si on confronte des élèves à telle hauteur, il y aura forcément des conséquences. Sur leur vie spirituelle, sur leur...
Ben, je pense qu'il peut y avoir des conséquences, oui. Que c'est pas... Enfin, il me semble que ce qu'on lit nous transforme. Enfin, personnellement, je le pense, mais vous n'avez pas cette expérience-là ? Moi, je trouve qu'il y a certaines lectures, ça vous transforme, quoi. On sent bien. Il y a des lectures, on sent bien qu'elles vous font du mal, et d'autres, elles vous font du bien. Enfin, moi, il me semble.
Merci beaucoup.
Vous voyez, alors, bon, je parle d'un autre auteur, d'un autre saint, plutôt, Saint Ignace de Loyola. Son expérience de base, quand il a été atteint par un boulet et qu'il était... Bon, alors, quand il lisait les romans de chevalerie, etc., ça lui plaisait beaucoup sur le moment, mais ensuite, ça lui laissait un goût amer. Et quand il se mettait à lire les vies des saints, ça le mettait dans la paix et ça lui faisait du bien. Ça prouve bien que quand on lit quelque chose, ça vous met dans un certain état qui peut vous... Enfin, je veux dire, en tout cas, pour lui, c'est comme ça qu'il opère un discernement, quoi. Il y a ce qui vous met dans la paix et ce qui vous met dans une forme de trouble. Alors, ça ne veut pas dire, hein, il faut bien me comprendre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner à lire des auteurs avec lesquels on n'est pas d'accord. Et qu'on ne peut pas les donner à lire n'importe comment, dans n'importe quel contexte, quoi. Ni sans un minimum d'accompagnement, en tout cas si on a de jeunes élèves. C'est bien évidemment très différent quand on a des gens formés devant soi. Pas du tout pareil.
Vous avez beaucoup parlé du plan théorique de l'enseignement chez Saint-Augustin, mais est-ce qu'il avait des recommandations pratiques ? Est-ce que, par exemple, il fallait être plutôt sévère, ou est-ce qu'il fallait... Comment est-ce qu'on pouvait organiser, en tout cas, les études pratiquement des personnes qui devaient devenir prêtres ? Enfin, je ne sais pas si j'en ai parlé du tout.
Alors, en fait, il n'y a pas de séminaire à l'époque.
Oui.
Et donc, en fait, ils vous donnent un manuel, mais à chacun de se débrouiller avec le manuel. Il n'y a pas de séminaire. Alors... En même temps, on peut voir pas mal de choses sur la manière dont concrètement Augustin... C'est étonnant la manière dont Augustin se rapporte à des jeunes qui l'interrogent ou des choses comme ça. Je vais prendre un exemple qui va peut-être bien vous faire comprendre. Il y a un certain Dioscor, c'est la lettre 118, si vous avez envie de la retrouver. La lettre 118 d'Augustin à Dioscor. Dioscor... C'est un étudiant qui ne doute de rien. Augustin est quand même un évêque déjà célèbre. Et bon, il ne trouve personne de suffisamment compétent là où il est pour répondre à ses questions sur Cicéron. Notamment sur le De Natura Deorum, ce qui est dit d'Anaximène, d'Anaximandre, etc., etc. De Thalès, etc. Et donc, il ne doute de rien. Donc, il écrit à Augustin, évêque, pour lui demander... de lui expliquer tout un certain nombre de passages de Cicéron, De Natura Deorum de Cicéron. Qu'est-ce que fait Augustin quand il lui répond ? Et bien, il commence par une première partie de la lettre, extrêmement intéressante, où il dit ben, « Écoute, réfléchis un peu à pourquoi tu fais des études. Quelle est la finalité de tes études ?» Bon, ben, tu cherches le bonheur. Donc ça, c'est le topos de la philosophie antique. Tu cherches le bonheur. Où se trouve le bonheur ? Et donc, en fait, il reparcourt toute l'histoire de la philosophie. Et en gros, alors de façon qu'on peut dire contestable, mais en fait, c'est une lecture, mais à la limite, Cicéron aussi fait des lectures un peu cavalières de l'histoire de la philosophie. En disant, en gros, bon, ben voilà, il y a l'épicurisme, il y a le stoïcisme, il y a le platonisme, et il y a le christianisme. Et en gros, en lui montrant que l'épicurisme, c'est pas satisfaisant, parce que tout n'est pas matière, il prend les différents aspects... les trois parties de la philosophie, à chaque fois il évoque les trois parties. Et puis, il montre, alors, une critique certainement caricaturale de l'épicurisme, peu importe. Il arrive au stoïcisme. Bon, c'est déjà quand même nettement mieux, c'est la vertu du sage, mais c'est pas suffisant. Ah, le platonisme, l'idéal maintenant, c'est de devenir semblable à Dieu, imiter Dieu. Et là, ben là, c'est vraiment le lieu du bonheur. C'est pas, autrement dit, c'est pas le plaisir sensible qui fait le bonheur. C'est pas la vertu ne suffit pas à faire le bonheur. Le bonheur, on va le trouver en cherchant Dieu. Oui, très bien. Mais les platoniciens n'ont pas été capables de nous donner les moyens de suivre Dieu. Et c'est ce que le Christ nous a apporté. Donc il introduit le Christ. Et en gros, il dit, si aujourd'hui les platoniciens revenaient à la vie, ils se convertiraient tous au Christ. Bon, donc, et si tu veux que je te résume le christianisme, je te le dis, première chose, c'est l'humilité. Deuxième chose, c'est l'humilité. Troisième chose, c'est l'humilité. Quatrième chose, c'est l'humilité. Et tu me le demanderas autant que tu veux, je te répondrai toujours ça. Donc, première partie de la lettre, en gros, il lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches le bonheur, vois où est le bonheur, en gros, convertis-toi. Puis, deuxième partie de la lettre, il lui explique, il répond à ses questions pratiques sur Cicéron, les questions techniques. Il le fait réellement. Et puis, il lui dit, quand même, c'est pas du tout ça l'important. Il conclut, l'essentiel est quand même ailleurs. Mais bon, enfin, je t'ai quand même répondu, en gros. Mais ça, je pense que ça donne bien l'idée de la manière dont Augustin conçoit. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ramener chacun à l'essentiel, à des choix essentiels, mais en même temps de prendre chacun là où il en est. Il a quand même pris le temps de répondre très longuement à Dioscore.
Merci infiniment. Merci beaucoup.